Bezrat Hashem, le chapitre 45. Mem He, chapitre 45. Page 309 dans les livres avec la traduction. On va faire un petit résumé rapide, bonsoir. On va faire un petit résumé rapide de ce qu'on a expliqué depuis le début du Tania. Rapidement, juste en quelques minutes. On a expliqué dans la page de garde du Tania, on a expliqué que le Tania est basé sur un verset qui est écrit dans la paracha Nitzavim, qui karov elecha adavar me'od befichav v'lofra la'asoto. Je traduis. On a expliqué à quel point c'est accessible, c'est possible pour nous de servir Dieu par la pensée, la parole et l'action. On a expliqué dans les derniers chapitres, on a beaucoup parlé de l'importance de la crainte et de l'amour de Dieu. On est arrivé à la conclusion que craindre et aimer Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Concernant la crainte, on a expliqué qu'il y avait plusieurs catégories de crainte. Il y a la crainte de la peur de l'enfer. Et il y a une crainte plus sérieuse qui est la crainte révérentielle. La crainte d'Akadosh Baruch, parce que je le respecte.
Mais on peut craindre
et On a parlé de l'amour. On a expliqué à propos de l'amour que de la même façon, il y a l'amour que j'ai au fond de moi, je file l'aime Dieu. D'accord? Et il y a aussi l'amour qui est beaucoup plus profond, c'est qu'un juif, il est fou de Dieu. Un juif, il est là, tout le temps, il pense à Kadosh Baruch Hu, comme un fils qui pensera à son père, et même encore plus que ça. Bon, on a expliqué. Maintenant, le problème, c'est que quand on a développé tout ça, et Michael, il a posé une question la semaine dernière, une question à juste titre. Question, bien sûr qu'on a expliqué qu'on a ça en nous, et qu'en vérité, de série, un juif, il aime Dieu, et qu'il a ça en lui, et qu'il suffit de le dévoiler, etc. Bon. Ça, je veux bien. Concrètement, on n'est pas de la dernière pluie. On n'a pas 15 ans, d'accord. On a un peu plus de tours sous le capot. Et bon, on a vu, on voit que c'est pas si facile que ça. Et que bon, bien sûr qu'en théorie, un juif au fond de lui, il aime Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que j'arrive à sentir au fond de moi que j'aime Dieu tous les jours, comme il faut? Pas forcément. C'est là que dans le chapitre 45, on va toucher à un point très important. On va toucher un point très important, qui est peut-être un passe-partout. Vous savez, quand vous voulez ouvrir une porte, d'abord vous cherchez la clé. Il y a une clé, vous avez un trousseau de clés. Imaginez que vous devez ouvrir une porte et que je lui dis, tu sais, Charles, dans ton trousseau, il y a une clé qui ouvre cette porte. Mais dans ton trousseau, maintenant, il y a 40 clés. Alors t'essayes une clé, après la deuxième, après la troisième, après tu t'embrouilles, tu re-essayes la première, après la dixième, après la quatorzième, après tu reviens à la dixième, tu t'embrouilles, jusqu'à que tu trouves pas la clé.
Tu deviens fou.
Alors en vérité, tu as la clé. C'est une question d'organisation, c'est une question de temps. Et on a la clé. La clé, on l'a en nous. C'est pas qu'on l'a pas. La clé, je l'ai. Le problème, c'est que la clé, des fois, je n'arrive pas à la trouver. Donc parfois, quand j'arrive pas à trouver la clé, il me faut le pass. C'est quoi le pass? Le passe, on va développer dans le chapitre 45. Vérité, c'est que le chapitre 45, on aurait dû commencer l'étude du Tania avec le chapitre 45, parce qu'il va nous donner une passe-partout. Il va nous donner le passe-partout quand on n'arrive pas à faire avancer les choses. Mais volontairement, il n'est pas mis au début. Parce qu'avant d'utiliser le passe, il faut d'abord essayer de chercher la bonne clé. C'est pas une chorma d'utiliser le passe. Utiliser le passeport, t'appelles un serrurier, il est rentré. Très bien. C'est pas une chorma. C'est pas pour ça qu'on était conçu.
Mais il est là pour que je l'utilise.
Non, je comprends. Je ne dis pas que. Bon, ça veut dire que le pass, on peut l'utiliser. Il est là. Et on va en parler aujourd'hui.
C'est un joker.
Mais normalement.
Tu vas t'en sortir. Toi.
Normalement, dans un bon jeu, on doit se débrouiller sans le joke, comme vous dites.
Ouais, c'est...
Si j'utilise. Ouais. Celui qui, dès le départ, utilise le joker, on est un mauvais joueur.
Non, et puis il peut me perdre à la fin.
Oui, il peut même perdre.
Il avance pas.
Et en plus, combien de jokers?
Pas beaucoup.
Donc, c'est ce que va développer ici la Gemara Zaken. En fait, ce qui nous dérange à tous, c'est quoi? Je parle pas de quelqu'un qui fait les mitzvot ou qui fait pas les mitzvot. Bien sûr qu'on fait les mitzvot. Je fais les mitzvot. Pas de problème avec ça. On fait les mitzvot. La question est, on sent des fois que ce qu'on fait, c'est pas vrai. Je sens que je suis pas à fond dans ce que je fais. Et ça me dérange. Je parle pas de faire ou pas faire. Je parle pas est-ce qu'on ira au Gan Eden ou est-ce qu'on ira en enfer. Bon, de toute façon, on ira tous au paradis. D'accord. Seulement, c'est pas ça la question. La question est la suivante. La question est, des fois je sens que je fais ce qu'il faut faire, mais je suis pas là. Je suis pas là. C'est-à-dire, c'est pas moi. Je suis pas dedans. Comment faire? Alors comment je veux faire, comment je peux faire pour réveiller le sentiment d'amour que je peux avoir vers Akadosh Baruch Hu? Et donc je disais que là, dans ce chapitre, l'Admor HaZaken va nous donner un pass. Maintenant, vous savez, un pass, c'est pas toujours facile. Un pass, il faut quand même, ça prend du temps. Mais c'est un pass. C'est-à-dire, c'est un pass qui accélère un peu les choses. Ok. Alors, on y va. Al derer od od yesh derer yashar lifneish. Non, en bas de la page 309.
Il y a des passes qui ouvrent la porte.
Il y a encore un chemin droit devant l'homme. Il y a des chemins tornitrueux. Mais il y a des chemins droits.
Ah, le passe.
Le passe. Yachar Lifneish. Un chemin qui est droit. Un chemin dans lequel tu n'as pas besoin de t'élever, de chercher, d'attendre. Un chemin droit. C'est quoi ce chemin? Ce chemin, c'est Aliédé. C'est quoi ce chemin droit? Ce chemin droit, la Sok Batora Mizot Lishman, pour m'aider à être préoccupé dans la Torah et dans les mitzvot. Lishman, ça veut dire de le faire pour Dieu. Parce que c'est ça ce qui nous dérange. Ma question n'est pas est-ce que je vais mettre les tefillin demain matin ou pas. Je les mettrai probablement comme je les ai mis ce matin. Ma question est-ce que demain matin, quand je vais mettre les tefillin, est-ce que je vais commencer un peu à vibrer? Ou est-ce que je vais rester toujours le même sans bouger? C'est ça ce qui nous dérange. La question n'est pas est-ce que tu vas changer, tu vas commencer à rajouter quelque chose. Bon, tu vas rester le même. La question est-ce que tu vas réussir à vibrer? Est-ce que tu vas sentir que tu as de l'amour vers Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu vas sentir que tu as la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Alors bon, j'ai essayé de faire les techniques des chapitres 40, 41, 42, 43, 44, essayer de penser comment Dieu est omniprésent, comment Dieu c'est mon père, comment Dieu c'est ma vie, comment Dieu c'est tout ce que tu veux, comment Dieu c'est mon cœur, comment Dieu... Bon, très bien. Mais je sens que c'est pas encore ça. Donc, il me faut quelque chose. Il me faut quelque chose qui est encore plus fort. C'est quoi? Ce qui va être plus fort, on tourne la page, page 70, c'est... Aliédé midato shel Yaakov avinu alav shalom. C'est en éveillant le trait de caractère d'Avraham avinu, de Yaakov avinu, pardon, alav shalom. Shei midat arachamim, qui est l'attribut de la miséricorde. Ça veut dire comme ça. On sait très bien que les trois patriarches correspondent à trois traits de caractère complètement différents. Avraham est l'ambassadeur du chesed, de l'amour. Yitzhak est l'ambassadeur de Gvura, à la rigueur. L'amour, ça veut dire chesed, c'est la bonté, c'est l'amour. D'accord? Gvura, la rigueur, c'est la crainte. C'est-à-dire que Avraham représente l'amour de Dieu, et Yitzhak représente la crainte de Dieu. Ce qu'on a expliqué depuis chapitre 40. 40, 41, 42, 43, 44. Amour de Dieu, crainte de Dieu. Avraham, Yitzhak. On te dit, quand tu n'arrives pas avec Avraham et Yitzhak, tu restes Yaakov. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est autre chose. Yaakov, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Comment ça fonctionne? On va expliquer, on va faire un peu dans les mots, après on va expliquer. Le horaire be marchav totrila, d'éveiller, tout d'abord dans sa pensée, rachamim rabim lifnei Hashem, une grande miséricorde devant Hashem. Pas seulement sur lui-même. Al nitzot selokut amechaye nafsho, sur l'étincelle divine qui fait vivre mon âme. Ça veut dire comme ça. Là on parle plus de bonté. Là on parle plus de crainte. On parle plus d'amour, on parle plus de crainte, on parle de miséricorde. Vous savez, quand par exemple on va demander la grâce présidentielle, le président il a un droit de gracier qui il a envie. En général, il fait avant de partir, avant de quitter son poste, voilà. Exactement. C'est la grâce présidentielle. Ok. Comment ça fonctionne la grâce présidentielle? Comment ça fonctionne la grâce présidentielle? Est-ce que lorsque le président il arrive à gracier une personne, est-ce que le président est en train de dire ce monsieur n'a rien fait? Comment ça fonctionne?
Sans doute, il doit se renseigner.
Non, c'est quoi la définition de la grâce? Est-ce que ça veut dire
pardonner.
Que le... Attendez, mais est-ce que ça veut dire que le président est au-dessus de la loi?
Non.
Le juge, il est venu, on a fait appel, on est parti jusqu'à Bruxelles, jusqu'à La Haye, on est parti partout dans le monde, et on a dit qu'on peut s'en faire affaire, plus rien à faire.
Il a l'air d'être quand même au-dessus de la loi.
Voilà.
Justement, on a été jusqu'à Bruxelles et machin.
Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça veut dire que le président est au-dessus, est un pouvoir qui est au-dessus de la loi? C'est grave de dire ça. Parce que le président, il a été élu par la loi. Pour la loi. Par le peuple, démocratie.
Mais la loi lui donne ce pouvoir.
Ah. Donc la loi lui donne ce pouvoir. Ce pouvoir de quoi?
de pouvoir gracier.
Ah, alors voilà. C'est pas un pouvoir de venir dire que le juge s'est trompé.
Non, non, pas du tout.
Attendez, j'explique. Le président va pas venir dire le juge s'est trompé. La loi qu'il a donnée n'est pas une bonne loi, on va changer la loi. C'est pas ce qu'il a dit. Le président, il va dire la loi qu'il a donnée, c'est une vraie loi. Et le juge, il a raison. La loi qu'il a donnée est une bonne loi. La preuve, on a fait appel sur appel sur appel, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a eu ici un crime, ou il y a eu ici, je ne sais pas, un problème, et donc c'est un problème. C'est pas ça la question. Quand un président va décider de gracier quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller au-dessus de la logique. Il ne rentre pas dans la question est-ce que c'est logique de gracier la personne ou c'est pas logique. C'est pas la question. La question n'est pas est-ce que la personne est coupable ou pas coupable. C'est pas la question. La grâce, ça va au-dessus de tout. Et ça, on parle juste d'un président. En hébreu, on appelle ça « rachamim », la miséricorde. Vous savez, lorsqu'on est pendant les 10 jours de Teshuvah, on invoque principalement « rachamim », la miséricorde. Pourquoi? Parce que dans la miséricorde, tu parles pas avec la logique, tu parles avec le cœur. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, imaginez un enfant, voilà. Un enfant, il a fait quelque chose. Bon, un enfant, on a une relation d'amour et de crainte avec lui. Il faut avoir les deux. Bon. Maintenant, imaginez qu'il a fait quelque chose et que tu n'arrives pas à te remettre avec lui parce qu'il a fait quelque chose de très très grave. Dieu préserve. Quelque chose de très très grave. Donc l'amour, il n'y a plus. Vous savez, on est arrivé à un niveau qu'il n'y a plus d'amour. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est que l'amour n'est pas assez fort pour faire en sorte qu'il reprenne. La crainte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication entre les deux. Ils sont fâchés, ils sont grave fâchés. Là, on peut avoir, parfois, ce troisième niveau, qui est le niveau de la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose qui n'est pas défini par un sentiment d'amour ou de crainte. C'est au-dessus de tout ça. C'est, je t'aime parce que t'es mon fils. Je te gracie parce que c'est comme ça. Voilà, le président a décidé de gracier. Pourquoi il a décidé de lui et pas lui? Et pas, il n'est pas obligé de donner une raison. S'il veut, il peut donner une raison. Alors, il y en a qui vont dire que c'est politique, il y en a qui vont dire que c'est ici. Bon, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de miséricorde, on est au-dessus de la logique. Alors, de la même façon. Quand nous, on communique avec Dieu, quand mon âme communique avec Dieu, il y a d'abord le mode A et le mode B. Le mode A de la communication avec Dieu, c'est quoi? Le mode A de la communication, c'est de dire, je communique avec Dieu, j'essaye de l'aimer. Bon, le mode B, j'essaye de le craindre. Abraham, j'essaie de l'aimer, Yitzhak, j'essaie de le craindre. Bon, on te dit, il y a un troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau? Tu vas demander à Dieu, tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu, tu vas lui dire, écoute, Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si je suis méritant. Je ne sais même pas si je t'aime vraiment, je ne sais même pas si j'ai vraiment peur de toi, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais même pas où j'en suis. Mais je te demande une chose, Hachem. Je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande d'avoir pitié de ma neshama, de l'étincelle divine qui est en moi. Juste, voilà, c'est tout ce que je te demande à cadeau de gens. Je te demande d'avoir pitié de moi. Je peux même pas venir te dire je t'aime. Je suis même pas au niveau que je peux venir te dire je t'aime, Dieu. Je suis même pas au niveau que je peux venir te voir et te dire Dieu, j'ai peur de toi. Je sais même pas où j'en suis. Je suis même pas sûr que je peux répondre ça. Mais une chose je sais, c'est que je sais que quand je suis en galère, je sais qu'il y a une seule personne qui peut m'en sortir. C'est qui? C'est toi, Kadosh Baruch Hu. Donc ça, là, vous comprenez, là, on part dans un registre complètement différent. Si le fils, il va voir le père, il lui dit, papa, excuse-moi, parce que j'ai fait ci, et parce que je compte plus recommencer, et parce que j'ai compris, et parce que je t'aime, et parce que je te crains, bon, tu peux discuter avec ça. Tu peux dire, attends, tu as fait, tu refais, tu recommences, etc. On peut discuter avec ça. Mais quand le fils te dit, écoute papa, je te demande pas de m'excuser parce que je t'aime. Ou parce que tu m'aimes. Certainement que tu m'aimes. J'en doute pas. Je te demande de m'excuser parce que je sais qu'un père, il a pitié de son fils. Alors je te demande d'avoir pitié de moi. Et donc je te demande de me gracier, même si c'est pas logique. Là, on touche à une corde qui est complètement différente.
Sensibilité.
Il faut savoir que Dieu est extrêmement sensible à ça. C'est ce qu'on appelle la rachamim. Rachamim, la miséricorde. Maintenant, il va développer. Comment en vérité on fait pitié? Parce que là, si vous voulez, il faut que je réalise que je fais pitié. Pour qu'on ait pitié de moi. En français, on dit tu fais pitié. C'est quand tu fais pitié, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir quand je fais pitié. Parce que si je fais pitié, ça veut dire Dieu, il a pitié de moi. C'est bien si Dieu, il a pitié de moi. Non, mais avoir pitié, ça veut dire qu'il a pitié. Ça veut dire qu'il me prend en pitié. C'est très bien. Mais c'est ce que tu dis à Morazaken. Morazaken, il te dit, c'est la question de Michael, mais il a raison. C'est une très bonne question ce qu'il a posé. Une question que je me pose, une question que tout le monde se pose. Il dit, non mais c'est vrai, c'est une question sérieuse, c'est une question, ça veut dire, je comprends, peut-être tu dis le Tania, t'apprends. À un moment, tu vois que t'es pas là. Tu dis, ça parle pas de moi, ça. Tu dis, bon, c'est joli, des idées intéressantes, que je comprends que je devrais être comme ça, et que c'est sûr que c'est possible, certainement. Bon, maintenant, voilà, maintenant on a fait un certain kilométrage, et on ne changera pas probablement, un petit peu peut-être. Donc je dis, voilà, je dis, HM, ça y est, c'est mort. Il faut attendre le prochain Gilgoul. C'est fini. Machaïa, comment il dit le roi Salomon? Il dit, Machaïa ou Cheyé, d'accord? Ce qui a été, c'est ce qui sera, et rien de nouveau sous le soleil. C'est ça, des fois on peut dire quoi? Tu crois que tu vas changer? Tu vas rien du tout changer. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu vas rien changer. T'es le même. T'es le même, tu vas pas changer. Et c'est là qu'arrive un niveau dans lequel je dis à Hachem, je sais pas si je peux te parler avec la logique, mais je peux te parler avec le cœur. Et avec le cœur, je peux te dire qu'Hachem, voilà, je réalise que je fais pitié. Maintenant, il faut réaliser pourquoi je fais pitié. C'est pas moi qui fais pitié, c'est mon âme qui fait pitié. Regardez comment Admor HaZaken va développer ça, c'est magnifique. Les horaires, je reprends la page 310, deuxième paragraphe. Les horaires de Marchefto Trila, Rachamim Rabbi Lufine Hachem. Il va éveiller dans sa pensée, tout démarre par la pensée. Grande miséricorde devant Hachem. Il faut qu'il comprenne, il faut que je comprenne que je fais pitié. C'est qui je? C'est pas moi. Moi, c'est mon âme. Almi tutselokut amechaye nafsho, sur l'étincelle divine qui fait vivre mon âme. On va reprendre l'historique de cette neshama. C'est pas moi qui fais pitié, c'est ma neshama. D'où elle vient cette neshama? Qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Asher yarad mimekoro. Cette étincelle divine, donc la neshama est une étincelle divine. D'accord? Ça veut dire que c'est un morceau de Dieu, si on peut appeler ça comme ça. Comme on a appris dans le chapitre 2. Asher, cette étincelle. Yarad, mimekoro, elle est descendue de sa source. Chaye achaim, qui est la source de la neshama, c'est la vie de la vie. Ça veut dire que c'est l'origine de toute vie. Ensof, baruchu, l'infini, béni soit-il. Amemale kol almin, qui emplit tous les mondes. Vesovev kol almin, et qui enveloppe tous les mondes. Et que tout est compté comme rien devant lui. Ça veut dire que la Neshama, où elle était? Où elle était la Neshama avant de descendre? Avant que Dieu lui a dit tu vas descendre sur terre. Elle était dans un niveau dans lequel elle avait tout pour elle. Elle était chez Akadosh Baruch Hu. Elle était dans la vie, dans la source de la vraie vie. L'infini. Ça veut dire que c'est infini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, tu montes. C'est Ensof. Ensof infini. Et pas seulement ça. Donc c'est, ici, il rentre dans les détails. Il dit, il y a trois choses. Et même à l'école almine, sauvev kol almine et kulakamek alachashi. Dans la relation qu'on a avec Dieu, il y a trois niveaux. T'as un niveau dans lequel tu sens que Dieu, il t'emplit. T'as un niveau dans lequel tu sens que Dieu, il t'enveloppe. C'est-à-dire, c'est tellement fort que ça peut même pas t'emplir. Et t'as un niveau dans lequel on te dit kulakamek alachashi, que tu sens que devant Dieu, tout n'est rien du tout. Qu'on est vraiment infime. Imaginez que l'aneshama, notre âme, l'âme de chacun de nous, avant qu'elle soit descendue sur terre, elle passait tout le temps par ça. C'est-à-dire tout le temps, tous les matins, tout le temps, non-stop, elle passe par ces trois phases. Elle attrape quelque chose. Après, elle dit non, mais en vérité, ça me dépasse. Après, elle dit non, mais ça me dépasse encore plus, mais je suis rien du tout. Et tous les jours, elle monte. Maintenant, un beau jour, Dieu, il est venu, et il lui a dit, chère étincelle, chère Neshama, tu vas descendre. Où tu vas descendre?
Mission.
Tu vas descendre en mission. D'accord? On y va. Dieu, tu demandes, on y va.
Chez qui?
D'accord? Où je vais aller? Dieu, il te dit, tu vas descendre. Pas Stam, tu vas descendre. Tu vas descendre, venit labesh, il va t'habiller, ben mishra de chivia. Tu vas t'habiller dans la peau d'un serpent. C'est qui le serpent? De qui on parle? Le corps est appelé ici la peau. Pourquoi? Parce qu'une peau, c'est quelque chose qui enveloppe. Comme le corps, il enveloppe la neshama. Donc ici, la peau, c'est le symbole du corps. Alors pourquoi le serpent? Quel rapport avec le serpent? Évidemment, le rapport est très simple. C'est parce que le serpent, ça nous rappelle le fait que... Qui a fait fauter l'homme au début?
Adam,
avec quoi? Serpent. Armoumi, la ruse. Et donc, le corps, finalement, si le corps a suivi le serpent, c'est-à-dire que le corps est un serpent en lui-même. Il a en lui cette nature de vouloir fauter. Ça veut dire que le corps veut fauter, comme le serpent. Il y avait un serpent qui était là, il y a mon corps, c'est comme un serpent. Donc mon corps, c'est un serpent, donc tu t'imagines. Dieu, il a pris une échama qui était tellement belle, tellement grande, tellement à l'aise, elle avait tout pour elle. Elle était tellement belle, la neshama. Ah oui. Et à Kadosh Baruch Hu, il le prend, il dit, tu vas descendre. Tu vas t'habiller dans un corps. Et ce corps, donc ce corps, ça, quand on dit que tu vas t'habiller dans un corps, ça veut dire que tu seras inséparable de ce corps. C'est pas, tu dis, bon, là, il m'a pris la tête, celui-là, je rentre chez moi. C'est impossible. Tu as 120 ans ici.
Mais vous avez dit qu'il y a plusieurs neshamot dans
un corps. Oui, mais là, maintenant, jusqu'à 120 ans, si Dieu veut. Votre neshama est stock, elle est bloquée dans votre corps, dans le mien. C'est une peau de serpent, ce corps. C'est-à-dire que l'aneshama, elle est là, elle n'arrête pas de penser à Dieu, comment c'est beau, etc., elle rêve. Et l'autre, il est là, en train de penser au Averot. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si vous prenez un tzaddik, tu le fais rentrer dans une boîte de nuit. C'est la même chose. Tu lui dis, tu vas habiter dedans jusqu'à la fin de ta vie. Oui, va voir. Et lui, il est là avec son sefer, il essaie d'étudier à côté, tout mort. C'est la même chose, c'est ce qui se passe. On prend une neshama qui est tellement grande, de force.
Mais on ne sait pas où elle va tomber.
Mais on sait, tous les corps, de tous nos corps, nous tous, d'accord, sont Mishra de Rivia. Sont des peaux de serpent.
Même d'un Raham qui va finir par être.
Raham va apprendre à raffiner son corps avant d'arriver là. Moi, nous, on n'est pas là. Monsieur Benita, là, on est au pass, là. On est chapitre 45. Si vous êtes jet sadique, c'est pas pour vous.
Non. comment on peut.
Là, c'est pour les gens. Ça, si vous voulez, c'est pour les gens qui sont recalés.
Non.
Chapitre 45, c'est pour les gens comme nous.
Vous avez décrit, elle tombe finalement dans la tombe. Ah, donc elle va dans un corps.
Bien sûr.
Un serpent, etc. Mais ce corps qui est en serpent, il peut devenir un sadique.
Il peut.
Ah ben voilà.
Il y a du boulot, hein.
Donc pas forcément.
Il y a du métier, hein.
Oui, mais est-ce qu'il est devenu un sadique?
Il peut devenir.
Ce Benita.
Heureusement qu'il y a des tzaddikim autour.
Est-ce qu'en 80 ans, il est devenu un tzaddik?
Eh bien, il y a des tzaddikim autour de nous.
Non, mais je peux pas. Est-ce qu'en 80 ans, il est devenu un tzaddik, ce corps?
Demandez-moi. Certains corps, oui.
En 80 ans, est-ce qu'il est devenu un tzaddik?
Ça dépend. Si tu as vu.
La question.
Moi, il n'est pas devenu. Donc, je comprends. C'est le problème. Le problème, on te dit, regarde d'où elle vient, la neshama. Et là, quand tu réfléchis à ça, tu dis, mais j'ai de la peine pour cette neshama. Ça veut dire qu'à la limite, si j'avais le corps tout seul, bon, le corps, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'à la limite, quand tu vois, pour reprendre l'exemple, je m'excuse de l'exemple, mais quand tu prends le tzaddik en boîte de nuit, même les fauteurs, ils ont de la peine pour le tzaddik. Ils ont dit, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait là?
Il passe à sa place.
Il passe à sa place. Il a de la peine pour lui. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à faire ici. Imaginez que même si je suis une personne qui ressent rien, juste le fait de penser que mon âme, d'où elle vient et où elle est, j'ai pitié d'elle. J'ai de la peine pour toi.
Mais
j'ai de la peine de ce que tu endures.
Dès le départ, si on imagine, là, voilà, une âme, c'est Dieu qui la fabrique.
Oui, oui.
C'est un pot de peinture de couleur blanche.
Mm-hmm.
D'accord. Je prends une goutte de blanc et je le mets dans un seau noir.
Oui.
Quoi qu'il arrive, la couleur blanche est finie. Elle va changer de couleur.
Bon.
Oui. Alors, comment tu peux imaginer déjà? Tu fabriques quelque chose de blanc. Tu sais que tu vas le mettre dans un corps ou un pot de noir. Ça va se transformer en
oui,
couleur.
Oui, non mais
c'est ça l'idée. Non, comment mais... tu faut que... c'est perdu d'avance.
C'est pas que c'est perdu d'avance. Bah, non, pas du tout. Il a raison, monsieur Benita. Il dit qu'on a vu des gens qui sont travaillés et qu'avec ils ont réussi à changer leur corps. Pas de problème avec
mais
ça.
Dès le départ, déjà, tu sais que le corps, comme tu l'enveloppes, elle est pas normale.
Mais attendez, mais ça, c'est pas un problème, ça.
Alors, tu cherches quoi alors?
La question n'est pas le résultat.
La couleur de la peau.
Non, là, je m'excuse. Là, il y a, je pense que c'est pas la bonne piste. Regardez. La question rabotaille n'est pas du résultat. On n'est pas en train de se poser la question, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? C'est pas ça la question. La question est, même si l'âme va réussir, j'ai de la peine pour elle. Parce que quand je sais d'où elle vient, et je sais où elle est bloquée, dans quoi elle est bloquée, dans quoi elle est bridée, parce que finalement le corps, il bride la neshama. C'est pas que t'as deux personnes qui vivent sous le même toit, et que s'ils sont fâchés, ben, un il va dormir dans le canapé, et l'autre il va dormir dans la chambre. C'est pas possible. Là, ils sont tout le temps obligés d'être dans le même lit, partagent tout le temps le même corps. Ça s'arrête pas. On est obligé tout le temps d'avoir, deux secondes, monsieur Benita, s'il vous plaît, on est obligé tout le temps de partager le même corps et la même âme. Et tout le temps. Quand tu réfléchis à ça, même le corps, elle a de la peine à Neshama. Il dit, la pauvre, ça me fait de la peine pour cette Neshama. Ça me fait de la peine. On va avancer un petit peu.
Mais à ce moment-là, la Neshama.
Oui.
Comment on peut faire c'est la pour ressentir, partie de
la pour ressentir
la détresse de la Neshama.
Ouais. Alors,
c'est un peu difficile, là, comme ça.
C'est une bonne question.
Même pas que
il suffit d'y réfléchir. Voilà. C'est l'objectif du chapitre 45. L'objectif du chapitre 45, c'est de comprendre que je fais pitié. Mais pas pour me déprimer. Pour que je parle à Dieu comme ça. Pour lui dire, écoute, Hachem, je sais pas ce que je vaux. Je sais pas ce que je peux faire. Mais écoute, voilà, je fais pitié. Alors, trouve-moi un passe.
Et pourquoi il sait pas?
Quoi? Bien sûr qu'il sait. Mais Hachem, il veut que t'essayes. Hachem, il veut que t'essayes. Écoute, c'est
un point.
Hein?
Je suis même pas un point.
D'abord, le père, il va dire au fils, écoute, on va te pousser à faire des études, à faire des grandes écoles, etc. Et après, avec le temps, maintenant, le fils, il a essayé, il a essayé, il a tout échoué. À la fin, il dit, écoute, papa, je suis à la rue, j'ai pas à manger.
Taux de réussite, combien sur des milliards d'individus?
C'est?
Taux de réussite, combien d'individus ont réussi?
Non, mais c'est pas, la question n'est pas le taux de réussite, encore une fois.
Vous revenez,
non, c'est faux. C'est faux, vous revenez à la charge. Là, je parle plus de réussite maintenant. Je parle pas de réussite. Non, mais je rentre pas dans la question de réussite. C'est possible qu'il y ait une réussite, et alors? Mais vous imaginez, pour arriver à ça, la souffrance qu'elle a, la Neshama, elle est dans une peau de serpent toute sa vie?
Bah, qui nous donne une chance, quand même.
Non, mais, attends, mais monsieur Akos, vous focalisez sur réussite, récompense, Gan Eden. Je parle pas de ça. Vous inquiétez pas, on ira tous au Gan Eden. C'est pas la question. C'est pas ça la question. Ma question est la suivante. Je dois comprendre que ma Neshama, dès la naissance et jusqu'à la mort, elle souffre.
Mais elle fait son métier.
Ah ouais. Mais je suis sûr qu'elle fait son métier, mais elle souffre. Et il faut comprendre.
Alors on le fait souffrir.
Il faut comprendre que je n'arrange pas les choses.
Ouais. D'accord, mais je veux dire, elle est là pour faire. C'est son métier.
Très bien. Très bien, mais j'ai compris. Mais le problème, c'est que.
Tu vas pleurer sur le sort d'un. Comment ça fait, sur une tortue qui met deux heures pour faire.
Le problème, c'est que cette Neshama, Michael, cette Neshama. Cette Neshama, c'est moi. Tu comprends? C'est pas un SDF qu'on m'a collé à la peau. C'est moi, cette Neshama. Donc en vérité, je dois comprendre que mon âme fait pitié. Mon âme est perdue. Et quand je, surtout quand je vois d'où elle vient. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle a jamais, c'est pas qu'elle, qu'elle est jamais allée bien. Il est né dans une famille qui correspondait pas, etc. Dis non, avant qu'elle descende, elle était bien. Elle était parfaite. Elle était à l'origine de la vie, elle était chez Akadosh Baruch Hu.
Oui, mais si.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement. Malheureusement. Eh ben, voilà. On descend. On va voir. On va faire plus pitié encore. Tu avais une question? Hein? Hein?
Après, en fait, ça rejoint un peu la question.
Ah, très bien. On va continuer. Maintenant, on va faire plus pitié. D'accord? Venit la bêche, me mishra de chivia. Et donc, comment cette neshama s'est habillée dans une peau de serpent? Je passe, page suivante. Arachok me orfna mela betachita echek. Cette peau de serpent, ce corps, il est éloigné de la lumière de la face du roi dans l'éloignement le plus extrême. Ça veut dire que plus loin que ça, tu peux pas. Tu prends, c'est pas perpète, c'est plus loin que ça. Prendre une neshama qui est d'un niveau tellement haut et la descendre plus bas que ça, tu peux pas. Tu peux pas. Plus bas que ça, tu la mets dans une peau de serpent. Qu'est-ce que tu veux? Plus que ça, c'est pas possible.
Pourquoi?
Attends.
C'est la résultante de la faute.
Mais ne rentrez pas dans la question pourquoi. Vous devez faire pitié maintenant.
C'est le monde dans lequel on est.
Quand quelqu'un il fait pitié, tu dis pas pourquoi. Tu dis il y a un problème.
Oui.
Il faut maintenant qu'on fasse pitié. Laissez arriver jusqu'au bout. C'est Hachem qui a décidé, il nous a envoyé en bas. Il t'a envoyé une mission.
Ah, d'accord.
Il t'a envoyé une mission, et le problème c'est que du coup, le tzadik il est dans la boîte de nuit, c'est pas ce qu'il fait là-bas. Et on ne laisse pas travailler.
On
ne laisse pas travailler. Donc il est bloqué, il est la peine pour lui.
C'est pas de sa faute.
Qui a olamazé, qui a olamazé, alors je termine le raisonnement, qui a olamazé, ou tachli taklipot agasot, car ce monde, le monde dans lequel nous vivons, est à l'extrémité des clipotes grossières. Ça veut dire déjà, si vous voulez, les forces du mal, c'est progressif. Notre monde, c'est l'extrême. Tu prends une échama qui est le plus haut possible, et tu l'as fait descendre le plus bas possible. Le Zohar, pour illustrer ça, il donne un exemple, il dit, c'est comme si quelqu'un il saute d'une montagne très haute à un trou très profond. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il a sauté de la montagne jusqu'au sol. C'est pas seulement qu'il a sauté du sol jusqu'au profond. De la montagne la plus haute au trou le plus profond.
C'est encore plus de profondeur.
Ça fait de la profondeur. C'est deux extrêmes. Alors, attendez deux secondes. Et donc, il dit comme ça. Il dit, on va réfléchir. On va réfléchir. Comment le Olam Hazé, comment se monte-t-il, c'est le monde le plus bas. Vous savez pourquoi c'est le monde le plus bas? Vous savez pourquoi c'est la clipa la plus basse? Parce que, même en général, quand les forces du mal commencent, c'est pas que c'est les forces du mal, c'est les gens qui disent, bon, on va être un peu indépendant, mais ils savent que c'est Dieu qui décide. Vous savez pourquoi ce monde, c'est la catastrophe? Parce que dans ce monde, on peut avoir quelqu'un qui, depuis la naissance jusqu'à la mort, il peut être convaincu qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il est complètement indépendant. Ça, c'est inconcevable quand tu n'es pas dans ce monde. Dans toutes les sphères qui sont un peu plus hautes, même dans les niveaux dans lesquels il y a des entités qui se disent indépendantes, au fond d'elles, elles ne sont pas indépendantes. Elles n'existent pas. Le Olam Hazé, dans ce monde-ci, l'obscurité est tellement forte que tu peux arriver à une situation que quelqu'un peut dire, il n'y a pas Dieu.
Mais c'est la propriété
de... Et il n'y a rien, et c'est juste la propriété de ce monde. Bon, la question n'est pas c'est la faute de qui. La question n'est pas c'est la faute de qui. La question est quelle est la situation maintenant. C'est ça, la question n'est pas à cause de qui c'est comme ça.
Qu'est-ce que je fais?
À cause de qui, j'en sais rien, c'est à cause de qui.
Qu'est-ce que je dois faire?
C'est la réalité, on parle d'un fait. C'est une réalité. La Neshama, elle était tellement haute, regarde où elle est maintenant. Elle est dans un monde dans lequel on doit expliquer aux gens qu'il y a Dieu. Et quand tu leur expliques, ils se moquent de toi. Et qu'est-ce qu'il raconte? C'est un arriéré, celui-là. Ça veut dire qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a pas de preuve que Dieu existe. Et au contraire, il faut remercier Dieu qu'il n'a pas créé de preuve qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'on est dans un monde comme ça. Ça, c'est une obscurité. Bah oui, mais ça, c'est une obscurité absolue. Imagine-toi la Neshama qui vient d'un monde dans lequel la divinité est tellement évidente et on la fait descendre dans un corps et dans un monde dans lequel la divinité est là, parce que c'est celle qui fait vivre. Mais il n'y a plus rien. Donc là, déjà, quand tu réfléchis à ça, hein, tu comprends que dès l'instant de la naissance, on est déjà dans un problème. Maintenant, je n'ai même pas parlé de mon historique. Là, je parle le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance, dès ce moment-là, où Dieu il a fait descendre, même avant, quand tu es dans le ventre, quand Dieu il a fait descendre la neshama, déjà, à ce moment-là, ça fait déjà pitié. Tu prends une neshama qui est tellement haute, tu la mets dans un corps tellement bas. Et là, je parle d'un bébé. Attendez, après ça va. Bon, arrivez les questions, M. Benita.
Eh bien, cette neshama,
oui.
On va dire, voilà, quand elle est... quand elle a fini sa vie,
oui, oui.
Elle monte.
Oui.
Alors, est-ce qu'elle est purifiée là-haut et après elle redescend? Qu'est-ce qu'elle devient?
S'il y a besoin, elle redescend, sinon elle ne redescend pas. Monsieur Benita, la question n'est pas, encore une fois, je pense que je reprécise. La question n'est pas qu'est-ce qui va arriver en haut, est-ce qu'on sera puni, est-ce qu'on sera récompensé, pourquoi c'est comme si. Je ne rentre pas dans cette question. C'est pas ça la question que je pose.
D'accord, alors pourquoi dans ce cas-là?
Monsieur Benita, quand on vous dit, on vous apprend, Dieu préserve, que vous avez un proche à vous, d'accord, quelqu'un de très très proche, qui est en prison, qui est avec une secte quelque part en Inde, il est perdu, paumé, perché. Bien sûr que après tu te poseras la question, comment il est arrivé là. Mais ça c'est la question que tu poses après. Ça. D'accord. Au début tu poses pas ces questions. Qu'est-ce que tu poses comme question au début? Au début tu dis, je vais le sauver, il faut le sauver ce bonhomme. Après tu poses la question pourquoi. Bonsoir.
Mais alors, d'accord, mais dans ce cas-là, quand on a quelque chose de très cachère. Comment se fait-il que Dieu envoie dans un corps qui est Yatoum A?
C'est sa volonté, c'est le travail, c'est le challenge. C'est le challenge.
Ça devrait être
bon. Bon, ça c'est le...
Qu'on envoie le cacher ici, on l'envoie
là. Mais ça c'est pas la question d'aujourd'hui, on rentre pas dans la question pourquoi. Dieu l'a décidé comme ça, il a décidé de prendre une schéma très haute, de la mettre dans un corps très bas pour travailler. La question n'est pas pourquoi. La question est, dans la réalité, quels sont les faits? Et les faits sont clairs. C'est que dès l'instant de la naissance, la neshama est descendue très 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 fort. C'est-à-dire que la neshama a de la peine, elle a beaucoup de peine. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, c'est écrit comme ça, que lorsqu'on annonce à la neshama en haut qu'elle va descendre, d'un côté elle est triste, d'un côté elle est joyeuse. D'un côté elle est triste parce qu'elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Elle le sait très bien. Mais d'un autre côté elle est joyeuse parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. En haut, on ne peut pas accomplir une mitzvot. En bas, on peut en accomplir. C'est comme ça que Dieu a décidé. Donc elle est contente. Elle est contente, mais elle sait que ça va pas être facile. Donc, dès que la neshama descend en bas, le fait même qu'elle descend ici-bas dans la terre, c'est déjà une souffrance. Donc là, déjà, on comprend comment, dès l'instant où ma neshama descend sur terre, c'est déjà une prison. J'ai pas fini. Maintenant, on continue. On lui frate, en particulier, page 311, au milieu, qui est chez Iskor. Kol ma'asav et dibura au marché otav miyam et yoto. Maintenant, on te dit, on va aller plus loin. À la limite, quand t'es né, t'étais pur. Bon, le problème, c'est qu'on a pris un corps. On a pris une neshama qui est très haute. On l'a mis dans un corps. On l'a enfermé là-bas. Mais après, quand tu te rappelles, toutes tes actions que t'as fait depuis ta naissance, toutes les paroles que t'as eues depuis ta naissance, toutes les pensées que t'as eues depuis ta naissance, à Charlotte, t'as vu Emma. Et tu te connais. Tu sais très bien que tout n'était pas cachère. D'accord, même il dit ici un terme joli, il dit l'autovim Emma, elle n'était pas bonne. Ou Meler Assur Bareatim, et que Dieu, le roi du monde, est enchaîné par des cordes, c'est un terme du Zohar. Rit et Mocha, les pensées impétueuses du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu réfléchis à ton passé, on sait très bien qu'au-delà de la Avera, que tu dis j'ai fait une Avera, et il y a eu un Kippour et j'ai été pardonné. Bon, la question n'est pas ce que tu as pardonné. Toute la vérote que j'ai fait, toutes les actions que j'ai fait, toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, toutes les paroles que j'ai eues, ça a laissé des traces dans mon corps. Ça fait que mon corps maintenant, il est plus pur, il est encore plus impur qu'il était à ma naissance. Donc ça veut dire plus les jours avancent, moins mon corps est pur. Et plus, c'est une souffrance. Pour ma neshama, de se trouver dans un corps comme ça, c'est une souffrance énorme. Quand tu réfléchis à ça, tu dis c'est vrai, ma neshama fait de la peine. J'ai de la peine pour ma neshama. Elle est dans un corps que ça peut pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux. Alors, à moins que ce soit un tzaddik qui va réussir à raffiner comme dans son corps, mais c'est pas notre cas. Je sais très bien que si je prends une année, il y a eu le Kippour 5178, il y aura un Kippour 5179. Et probablement, j'aurai plus de choses à demander pardon que celui de 5178. Ou plus, ou autant, ou peut-être un petit peu moins. Je crois pas. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura. C'est-à-dire que le corps, seulement, bien sûr que je fais teshuva, Dieu me pardonne. Il dit, t'inquiète pas, je te punirai pas. Mais ça a laissé des traces dans le corps. C'est-à-dire que mon corps maintenant, il est moins pur. quand je suis né, j'étais pur comme un enfant. C'est-à-dire que mon corps, même déjà ça, qui est une prison, mais c'était une prison pure au moins. Une prison pure.
Quand on passe qui court, c'est pas effacé.
Non, c'est pas que c'est pas effacé. C'est effacé. On te punit pas. T'es pur. D'accord? Mais concrètement, le corps, il a un passif. Ça veut dire que tu peux pas attendre de quelqu'un qui a passé un kippour, mais qui a derrière lui 50 kippour, de décoller aussi rapidement qu'un enfant qui a jamais fauté.
Ah,
ben évidemment.
Ah, c'est à
ce ben évidemment, ça veut dire que quand on a un corps qui est impassif, alors bon, ce corps il traîne des casseroles.
D'accord.
Il traîne des casseroles. On va pas te punir, t'inquiète pas, tu seras pardonné, on n'ouvrira pas de dossier, t'inquiète pas, il y a prescription. Kippour est prescription. Il y a prescription, mais il y a des dossiers, des casseroles. C'est notre réalité. Qui ne traîne pas des casseroles?
Il y a prescription,
pas la punition. On arrête de penser à la punition. Vous ne vous inquiétez pas.
Il y a moins de punition. Il faut regarder plutôt la grandeur.
Voilà, ne regardez pas la punition. Ne regardez pas la punition. C'est qui sont là faire la punition? Alors au pire, qu'est-ce qu'il y a?
La magie, la magie.
Il pique avec un peu de feu. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est la magie, la magie. Comment Dieu l'a créé?
Non.
La
peur.
Oui, alors oui.
Écoute bien. David,
t'as peur?
Toute l'humanité depuis le
monde. T'as peur de souffrir?
Et c'est là.
T'as peur?
Pas une seconde en enfer.
Bien sûr. C'est la Mishnah qui dit ça. T'as peur de souffrir?
Ah oui.
T'as peur de souffrir?
T'as peur de
l'enfer?
T'as peur toi?
Ah, ils l'ont bien chauffé. Il est bien chaud.
Il
y a du bois. Il y a tout ce qu'il faut.
C'est pas sûr.
Ah. Mais pas du tout.
Non, finalement, c'est ça. Donc, faut regarder plutôt la grandeur.
Mais c'est pas ça ce qu'il faut voir maintenant. On est beaucoup plus loin que ça. Je suis pas là en train de me dire est-ce que le guénome il sera chaud ou il sera froid. D'accord. Bon, certainement, il y aura du bon karcher, c'est tout. Il y aura du karcher, certainement qu'il y aura du karcher. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est je me dis, mon âme, elle a pas le choix. Elle est obligée de rester dans ce corps. Comme c'est écrit, Al-Kochar Ata Chai. Contre ton gré, tu vis. Ve'al-Kochar Ata Met. Et contre ton gré, tu meurs. Ça veut dire que c'est pas moi qui décide. Alors, bien sûr, on a toujours le libre arbitre, mais c'est pas moi qui décide. Moi, Maneshama, tant que Dieu décide, elle reste là. 120 ans. C'est tout. Elle reste 120 ans. Maintenant, tu comprends qu'à 120 ans, t'es pas plus pur que ce que t'étais à la naissance. C'est pas possible. C'est impossible. Donc l'Aneshama, elle peut que plus souffrir, qu'à la naissance dans ton corps. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que l'Aneshama, elle a quand même une joie. Quelle joie elle a? Elle a la joie qu'elle est en mission. Elle est en mission. Dieu, il l'a envoyé en mission. Il dit, toi, Neshama, je t'ai sélectionné parmi toutes les âmes qui sont en haut pour aller en mission. Donc, elle a une joie. Mais à quel prix? Elle a une joie. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'elle endure? Qu'est-ce qu'elle souffre? C'est une grande souffrance pour la Neshama de vivre dans un corps comme le nôtre. Dans un corps qui a des... Même Shabbat! Ça s'arrête pas! Depuis la naissance, même quand t'es pur, le corps est déjà une peau de serpent.
Même devant un verre de...
Encore plus quand tu as toutes les pensées. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais une avéra, je traîne la Neshama avec moi dans l'avéra.
Ah oui, on est binôme.
C'est comment il dit là-bas dans le chapitre 7 de Tanya? Il dit, c'est comme si je prends la tête du roi et je la mets dans les toilettes.
Bah oui.
Dans les excréments. C'est pas que tu dis à la Neshama, bon écoute, reste dehors à la sortie, tu me laisses faire un petit tour et je te retrouve dans 10 minutes.
Mais t'es avec moi.
Non, je peux pas te lâcher, je suis avec toi. Mais si on... Tu pars faire la faute, je suis avec toi.
Ça, c'est suicidaire.
Si on a créé le mot compassion, c'est parce qu'on sait que quand elle va venir, elle va traîner, elle va être dans le truc.
Alors là, c'est là comme... Donc ça, notre but maintenant, c'est d'arriver à un niveau, et ça, je pense qu'on peut tous arriver à ça, parce que ça, je pense, on n'a même pas fini encore. Hein. Quelqu'un qui réfléchit sincèrement à sa situation, ce qu'il en est, il peut pas ne pas avoir pitié sur sa Neshama. Enfin, il peut pas avoir pitié de moi. Moi, mon corps, il fait ce qu'il veut. Je parle de mon âme. T'as une âme qui est en toi. T'as pas pitié d'elle. D'où elle vient, où elle est. Donc tu parles à Dieu. Tu lui dis, écoute, Hachem, fais-moi un peu décoller.
J'ai entendu. J'ai entendu une fois. Après, j'ai entendu qu'une fois ça.
Oui.
Que la Neshama était comparée justement à un enfant. Pas la Neshama, la Shrina. C'est vraiment qu'on parle la Shrina, la Neshama.
Oui,
c'est Hachem aussi.
Bien sûr.
Quand on pense à ça, c'est-à-dire si comparativement à. Par rapport aux choses, au monde auquel on est soumis, on va dire, dans ce monde-là. Si tu te places toi-même dans une situation où tu peux faire peur à un enfant, par exemple, faut penser que t'as un Hachama, pas avoir peur. Ou,
bien sûr.
Voilà, c'est dans ces circonstances.
Bon. Après, tu vois, il rentre.
D'Hachem.
Oui, tu comprends. Il rentre pas ici dans les questions de peur ou pas peur. Ici, il rentre dans la question. Je comprends ta question. Il rentre pas dans la question de peur ou pas peur. Il rentre pas dans la question est-ce que l'âme s'est détachée de Dieu ou pas. L'âme s'est pas détachée de Dieu.
Elle n'est pas détachée.
C'est clair. Seulement, la question est la suivante. C'est combien de souffrances elle va endurer comme ça? C'est une souffrance énorme pour la Neshama. C'est-à-dire, d'un côté, elle sait que.
C'est la Nechama, si c'est une partie d'Hachem, comment on peut dire qu'Hachem, il souffre entre nous?
Parce qu'il souffre. On l'a mis en prison dans un corps. On le met dans une cellule.
Il se met lui-même.
Pourquoi?
S'il se met lui-même.
Ça, c'est sa volonté. C'est la question de tout le monde. C'est sa volonté pour qu'on lui sorte des mitzvot.
Il n'y a même pas un petit programme, quelque chose qui vient, qui lance quelque chose.
Mais bien sûr qu'il y a un programme. Attendez. Bien sûr qu'il y a un programme. Parce que le programme, pour répondre à la question, le programme, c'est quoi? C'est que Dieu, il sait très bien que cette Nechama qui est tellement forte, il n'y a que elle qui peut bosser en bas. Il y a tellement d'impureté en bas, qu'il n'y a qu'une Nechama qui est tellement puissante et tellement forte, d'accord, qui peut travailler en bas. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle ne doit pas endurer? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas? Et c'est le problème, c'est que c'est pas une mission pour un an, pour deux ans, pour un jour, pour deux heures. C'est une mission pour une vie. Tu dors, la Neshama, elle est là. Tu te réveilles, la Neshama, elle est là. Tu fais une Avera, elle est là. Tu fais une Mitzvah, elle est là. Kippour, elle est là. Elle est tout le temps là. Qu'est-ce qu'elle n'endure pas?
Mais c'est quoi la différence entre moi et la
Neshama? La Neshama, c'est moi. Le moi, c'est la symbiose du corps et de la Neshama.
C'est bien deux choses différentes.
Non, c'est-à-dire le moi, quand je dis le moi, c'est la symbiose de mon corps et mon âme.
On est siamois.
C'est mon moi.
On est siamois.
Si tu veux. Ouais, c'est bon ego.
Ouais, on est siamois. On n'est pas séparés.
C'est ma neshama. C'est moi. La preuve, c'est qu'après 120 ans, qu'est-ce qui se passe après 120 ans? Le corps disparaît. Qu'est-ce qui reste de
l'âme? C'est relié par un cordon.
Il reste l'âme. Et quand on parle à un proche qui est parti, à qui on parle? On parle à l'âme, on parle à son âme. Elle est toujours là, son âme.
Mais pour le coup.
Donc le vrai.
Il
y a une partie qui reste en bas, une partie qui monte. Mais le vrai moi, c'est qui? C'est pas mon corps. Le corps, il disparaît avec le temps. Le vrai moi qui est indestructible, c'est qui? C'est mon âme. C'est ma neshama.
Non, mais moi qui réfléchis. C'est mon âme qui réfléchit.
Mais quand je dis moi.
Oui,
j'ai compris.
Mon corps.
Le toi que tu ressens, c'est ton âme qui fait vivre ton corps. Donc tu sens, par exemple, le fait même que tu arrives à réfléchir. Quelle différence entre toi et un homme mort? Pourquoi lui aurait pu réfléchir? Parce que toi, tu as une neshama dans ton corps qui vivifie ton corps. Donc le fait de réfléchir, c'est la neshama qui s'exprime dans ton corps. C'est ça ton moi. Quand je dis moi, je pense, ça veut dire avec ma neshama qui est claire dans mon corps, je pense comme ça. Le problème, c'est que le corps, il prend en otage la neshama. Il la tire où il veut la tirer. Et c'est moi en vérité. Je prends la neshama.
Tu serais capable d'une réflexion?
Quoi? Qui?
Le corps.
La neshama, elle me tire en haut. Le corps, il me tire en bas. Et moi, et on sait très bien que la pesanteur, elle t'attire d'abord en bas. Et moi, je décide qui j'écoute. Malheureusement, qui on écoute en général.
Oui, mais quand il y prend en otage, ça voudrait dire que le corps est animé d'une réflexion quelque part.
Mais non, ça veut dire comme ça. Celui qui prend en otage, c'est moi. Le moi, c'est celui qui est la symbiose du corps et de l'âme et qui décide qui j'écoute. En moi, j'ai une âme qui veut décoller, j'ai un corps qui veut atterrir, et j'ai une volonté. La volonté, c'est moi qui décide où je vais, qu'est-ce que je fais. Malheureusement, cette volonté, qu'est-ce qu'elle décide en général? Donc, on fait souffrir la Neshama. La Neshama, elle souffre.
Quand vous dites des affirmations comme ça, vous ouvrez plein de questions. On n'arrive pas à répondre, on n'arrive pas à poser des questions. Quand quelqu'un est dans un hôpital à l'état végétatif, on dit que.
Oui.
Ça veut dire que son âme est toujours là ou elle est déjà partie?
Évidemment qu'elle est toujours là.
Oui, tant qu'il est vivant.
Tant qu'il
est vivant. Il ne réfléchit plus, il n'y a plus d'un. C'est un légume.
Non, ça veut dire que son âme n'arrive plus à s'exprimer dans son corps. Elle est toujours là.
Mais lui.
Quand, je donne un exemple. Quand une personne, par exemple, Dieu préserve, devient paralysée de la main.
De là?
D'abord, comment ma main fonctionne?
Cerveau.
Parce que dans mon âme, non, je vais expliquer comment. Parce que dans mon âme, il y a plusieurs facultés. Une des facultés, c'est la parole. C'est-à-dire que l'âme, il y a l'âme, et dans l'âme, il y a des facultés. L'âme a des facultés. Il y a la faculté de la parole, il y a la faculté du toucher, il y a la faculté du mouvement, des facultés. Et il y a la faculté, une faculté qui correspond à chaque membre spécifique. Lorsque, des fois, vous allez chez un docteur, Dieu préserve, il te dit la main, elle est paralysée. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe pour aller devenir paralysé? Tu dis, écoutez, je comprends pas, le membre fonctionne. Ça veut dire que les membres sont là, mais ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que l'âme, la faculté de l'âme qui fait vivre la chose, n'arrive pas à vivifier, n'arrive pas à mettre de l'énergie dedans. Donc ça marche pas. Donc ce qui fait la différence entre un homme vivant et un homme mort. Seulement, quand vous avez une personne qui est au stade végétatif, d'accord, lui, il est dans un état dans lequel son âme n'arrive pratiquement plus à s'exprimer dans son corps. Il y a un petit peu encore, le cœur il bat un petit peu, mais c'est tout.
Non, il peut battre des années.
Des années. D'accord. Ça veut dire que son âme n'arrive plus à s'exprimer dans son corps. Elle n'arrive plus à voir par le corps. Elle n'arrive plus à entendre par le corps. Donc elle entend différemment. Elle voit différemment. Elle sent différemment. Sans passer par un corps.
Il y a beaucoup de...
L'âme est toujours là. Seulement l'âme, elle passe plus par le corps.
Donc elle est aussi malade.
Beaucoup de gens qui disent que...
Elle est malade, mais à la limite, elle souffre moins. Elle souffre moins que quand elle est là, on s'exprime, on fait n'importe quoi. C'est une souffrance énorme pour la Neshama, ça. Quand elle est là, elle veut te tirer juste, elle te dit, donne-moi juste 5 minutes par jour, faire une mitzvah. Ah, quel prix je vous donne cette mitzvah? Oh, allez. Hachem a dit, mais je comprends pas. Je vis avec toi, je suis tout le temps avec toi. Je suis tout le temps avec toi, je suis dans ton corps, je suis dans toi. Tu me donnes pas 5 minutes. 5 minutes dans la journée, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à 5 minutes. 5 minutes.
J'ai compris que c'était l'échabat d'âge.
Elle te dit, attends, je suis parti avec toi, j'étais avec toi dans la voiture, je t'ai accompagné partout, j'ai fait toutes tes courses, je t'ai accompagné dans toutes tes bêtises. 5 minutes, donne-moi. 5 minutes. Même ça, on discute encore, on dit attends, elle fait toutes les courses avec toutes tes bêtises, elle les a fait avec toi. Tu l'as tiré partout avec elle. Après, tu dis, laisse-moi 2 secondes, je rentre dans une boutique, 2 minutes.
Elle n'était pas d'accord.
Donne-moi 2 minutes dans une boutique, je vais rentrer juste acheter un petit truc, juste faire une petite mitzvah.
Elle n'est pas d'accord. Hein? Elle n'est pas d'accord.
La Shabbat, elle n'est pas d'accord, non.
Elle est dominée par le corps.
Non, elle n'est pas dominée par le corps. Le corps pousse vers une direction.
Tout à l'heure, quand tu rentres dans un endroit de boîte de nuit, le type, il est avec son livre.
Je viens d'expliquer. Le corps tire vers une direction. L'âme tire vers une autre direction. D'accord? Évidemment que la pression qui est exercée par le corps est plus forte.
Et donc, les forces s'annulent.
Et donc, après, ce qui reste, c'est la volonté. Ouais. C'est moi, avec ma volonté, je décide qui j'écoute. Et malheureusement, on sait qui on écoute, en général. On sait qui on écoute.
J'ai entendu que s'il n'y avait pas l'aide d'Hachem, on resterait que...
Ah, c'est sûr! Mais elle est rassobra réative. Donc, le roi, il est emprisonné. Yaakov révèle Nachalato. Je tourne la page 312. Car Yaakov révèle Nachalato, il est écrit dans la paracha à Zinou que Yaakov, c'est-à-dire les âmes d'Israël, sont la corde de son héritage. Ça veut dire quoi? Révèle, ça veut dire une corde. Bon, révèle en hébreu, ça veut dire aussi une parcelle. Si on prend le verset au sens figuré, on est en train de dire que Yaakov est la parcelle de Dieu. Ça veut dire que les âmes d'Israël sont la parcelle de Dieu. Mais là, on te dit, révèle en hébreu, ça veut dire aussi une corde. Quand vous allez en Israël, dans ma collègue, je veux de la corde, je dis, révèle la corde. Maintenant, dans une corde, l'Admor HaZaken, il explique qu'un juif, c'est comme une corde. Une corde où tu as une extrémité qui est attachée en haut, et une extrémité qui est attachée en bas. L'extrémité qui est attachée en haut, c'est la neshama qui est attachée en haut tout le temps. Elle se détache jamais. L'extrémité qui est en bas, c'est l'extrémité qui est dans le corps. Et ça amplifie encore plus le problème. Pourquoi? Si encore on avait dit, il y a une neshama qui s'est détachée d'en haut, qui est descendue en bas, bon, elle va passer parce qu'elle va passer, après 120 ans, elle revient de son détachement, on fait les comptes, on renvoie s'il faut, on répare, etc. Et on refait un échange standard. Ça aurait été pas mal. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. La neshama ne se détache jamais d'en haut. C'est-à-dire que même lorsqu'elle est en bas, même lorsqu'elle reste bloquée dans le corps, elle reste toujours comme une corde, d'accord, qui a une extrémité qui est attachée en bas, dans le corps, et une autre extrémité qui est attachée en haut.
Donc quand elle fait des bêtises,
ça veut dire qu'à chaque seconde,
il y a des répercussions,
bien sûr, et ça veut dire qu'à chaque seconde que je vis dans la neshama, tu peux pas faire oublier la neshama qui elle est, d'où elle vient, elle peut pas oublier. Parce qu'elle est tout le temps attachée en haut.
Donc elle est raccordée à Dieu.
Tout le temps.
Qui elle nous raccorde
tout
à
le temps. Alors, tout le temps. Donc ça, mais ça amplifie encore plus la pitié. Parce que quand tu prends un soldat, tu le mets en mission, mais il a plus les ordres du général. Tu mets pour 120 ans. Bon, il va un peu se dévergonder, il va oublier, il va revenir, etc. Mais là, on te dit non. Il est constamment en relation non-stop, comme une corde. C'est-à-dire que même lorsqu'en bas, le corps le pousse, la corde le rappelle toujours. Il vient, et en haut, il sait exactement ce qui se passe, il sent ce qui se passe mal. Et donc, c'est pour ça que c'est une souffrance extraordinaire pour la neshama.
Donc, c'est une tripartie, quoi.
Et ça, on dit, hein?
Tripartie, en fait,
on dit,
c'est Dieu.
Non.
Et moi.
L'âme. L'âme qui est en haut, d'accord? Là, on parle du corps. Là, on parle du corps et de la neshama. Attendez, laissez-moi juste finir le raisonnement. Vehu sod galut ashrina. Ça, dans les livres de la Kabbalah, on appelle ça le secret de l'exil de la Shrina. Le secret de l'exil de la Shrina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. La Gemara a dit comme ça. Elle dit, Kadosh Baruch Hu dit, vous croyez que quand vous allez en exil, je suis plus là? Galoul Edom, Shrina Imaem. Dit la Gemara. Lorsque les Juifs ont été exilés à Edom, la Shrina est avec eux. Tu es exilé à Rome, la Shrina est avec eux. Et tu es exilé à Babel, la Shrina est avec eux. C'est-à-dire, Dieu, il dit, c'est pas parce que vous avez été exilé que je suis plus là. Quand vous êtes exilé, Immo anochi betzara. Je suis avec vous dans la souffrance. Et ça, c'est le secret de l'exil de la Shrina. Ça veut dire, si vous voulez, ce que ma neshama, elle vit, d'accord? C'est, si vous voulez, il y a le microcosme et le macrocosme. Il y a, de façon générale, ce que Dieu, il vit sur cette terre, que, voilà, il est en exil, C'est-à-dire qu'on, le peuple juif est en exil, ça fait déjà plusieurs millénaires. On est en exil et on traîne, et donc il est en exil, il est avec nous en exil. De la même façon, la Neshama vit ça, mais de façon micro. C'est-à-dire que la Neshama, elle vit ça aussi de la même façon. Qu'il y a une Neshama qui est là, elle dit, mais je suis descendu, mais je suis toujours là. Toujours attaché en haut. Toujours, toujours attaché en haut. Elle lâche pas. Donc là, on comprend, quand on réalise tout ça, on comprend à quel point c'est une galoute énorme pour la Neshama. C'est une souffrance énorme pour la Neshama. C'est une souffrance extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, elle te lâche pas. Même quand tu as fait une avéra, elle est avec toi. Ah, par exemple, des fois, je parle avec des jeunes. Vous savez, un jeune, quand il fait une bêtise, il n'a pas envie que son père le voit. D'accord ? Il n'a pas envie que son père. Avec ça, son père, c'est pas son Dieu. Il n'a pas envie que son père le voit. Il dit, dis pas à mon père. D'accord ? Parce que bon, ça se comprend. Il ne veut pas faire de la peine à son père. Maintenant, imaginez si le jeune, il est en train de faire là, des bêtises, des grosses bêtises, et que son père est toujours là en train de le regarder. Et qu'il doit supporter ça. Vous imaginez la souffrance que c'est ? De devoir être là, regarder, et tu peux rien faire. C'est ce que notre Neshama vit. Alors, je dis pas ça pour vous faire pleurer, mais je dis ça pour qu'on comprenne que notre Neshama, elle va très mal. Elle souffre. Alors, d'un autre côté, elle va très bien parce qu'elle fait du chiffre, fait des mitzvot, on fait beaucoup de mitzvot, donc elle est contente. Mais d'un autre côté, elle souffre beaucoup. Et ça, c'est une façon de parler à Kadosh Baruch Hu. De lui dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, à Kadosh Baruch Hu, je sais pas qui a raison, qui a tort. Je sais pas qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment. Je sais pas, j'en sais rien. J'arrive pas à réfléchir à ça. Mais une chose je sais, c'est que mon âme va mal. Mon âme va mal. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, amène-moi un peu de lumière dans ma vie. C'est pas parce que je suis pas en train de dire que t'as tort. Je suis pas en train de dire que j'ai raison. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute papa, je suis en galère. Est-ce que tu peux pas m'aider un petit peu? Est-ce que tu peux m'éclairer? Ça, dit l'Admor HaZaken, c'est le passeport. Je vais raconter une histoire du Baal Shem Tov pour illustrer ça. Une fois, le Baal Shem Tov, il a demandé à un de ses élèves, il me semble que c'était Rabbi Zev Kitzes. Il lui a dit, j'ai besoin que tu sonnes le chauffard. Cette année à Rosh Hashanah, je veux que c'est toi qui sonnes le chauffard. Le chassid, il était intelligent, il a dit, Rabbi, je suis prêt à sonner le chauffard cette année, à condition que vous m'appreniez toutes les kavanotes d'après la Kabbalah.
Ah oui, tu as répondu ça.
Les kavanotes, mais pas les kavanotes, c'est les kavanotes Baal Shem Tov. Les kavanotes qui est que le Shem Tov qui connaît. Baal Shem Tov au début il a dit non, écoute, dans ce cas-là, on va voir quelqu'un d'autre, etc. Alors vous avez dit non, mais demandez à moi. Bon, vous avez compris. Baal Shem Tov a dit ok, je vais t'apprendre, ça va nous prendre plusieurs semaines, on va apprendre les kavanotes. Kavanotes du chauffard. Et donc Rabbi Zev il est venu, tous les jours il apprenait avec Baal Shem Tov, il écrivait, il a préparé des papiers, il s'est fait des schémas avec des mémos, etc. Il arrivait, il avait tout son papier, un papier dans lequel il a tout résumé, toutes les kavanotes du Baal Shem Tov. Il s'est dit comme ça, dès que je vais sonner le chauffard, chaque sonnerie correspond à un sod, comment on construit le monde, on construit l'année, c'est extraordinaire, c'est pas ça, on sonne. Il a préparé le papier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il arrive au moment où il doit sonner le chauffard, il cherche le papier. Il n'y a pas le papier. Il est comme un fou. Le papier du Baal Shem Tov. Le papier avec les kavanotes. Et il cherche partout, introuvable. Non. Et à la fin, le Baal Shem Tov dit, il faut sonner maintenant. Alors il a sonné. Et il a sonné avec des pleurs, comme il n'a jamais pleuré de sa vie. Il a pleuré parce qu'il avait de la peine, il était en train de servir des kavanotes, mais il ne se rappelait plus grand-chose, etc. Et à la fin, quand il a terminé de sonner le chauffard, après qu'ils ont terminé la tila, le Baal Shem Tov lui a dit la chose suivante. Le Baal Shem Tov lui a dit, sache que ce n'est pas par hasard si tu as perdu le papier. Sache que dans les kavanotes qu'on a appris, c'est différentes clés à différentes portes. Mais il y a une clé qui est passe-partout, qui ouvre toutes les portes. C'est la sincérité du cœur. C'est les pleurs. Quand tu as pleuré avec ta neshama, quand tu as pleuré, ça veut dire que tu aurais pu faire une super sonnerie du chauffard avec des kavanotes, tu aurais calculé et maîtrisé chaque mois. C'est bien. Tu aurais peut-être les bonnes clés aux bonnes portes, peut-être. Mais là, tu as eu le passe. Et tes sonneries du chauffard sont passées parce que tu as eu le passe, tu as eu les pleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pleurer avec des larmes. C'est pas le... Ce que je veux dire, c'est comprendre que ça va mal. Le fait même de comprendre que ça va mal, ça c'est déjà un niveau dans lequel Akadosh Baruch Hu, quand tu parles comme ça à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre des portes. Combien de fois dans notre vie, on a eu des situations, chacun de nous peut-être a eu des situations, dans lesquelles, vous savez, l'homme a un caractère qui supporte beaucoup. On supporte. Des fois, tu as une situation qui arrive dans la vie qui n'est pas forcément normale. Et tu supportes, tu dis bon, c'est pas grave, ça passera, etc. Et tu supportes, et la situation ne s'arrange pas. Et à un moment, tu craques, tu dis, ça y est, stop, adkan, ça s'arrête là, c'est fini. C'est, maintenant, le problème, c'est plus possible comme ça. Et c'est là que le problème est réglé. Comment ça se fait que le problème n'a pas été réglé avant? Comment ça se fait? Tu pouvais le régler avant, pourquoi tu n'as pas réglé plus tôt? Parce qu'avant, le problème, il ne dérangeait pas vraiment. Ah bon, tu disais au fond de toi, tu disais, il y a un problème, et bon, on s'arranger, il s'arrangera, peut-être, avec ci, avec ça. Il ne dérangeait pas vraiment. Alors, des fois, ça prend des années pour arriver à cette prise de conscience. Des fois, ça prend des années, des années, des années. Et à un moment, des fois, il y a une prise de conscience comme ça. Et en général, dès qu'il y a cette prise de conscience, en quelques jours, tout est réglé. Je suis sûr que chacun de vous a eu l'occasion de voir des situations comme ça dans sa vie, qui lui reviennent. Des situations comme ça que, à un moment dans lequel il y a une prise de conscience que ça va mal, c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu comprends que ça va mal, à ce moment-là, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, tu es en train de lui dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. On connaît aussi l'histoire qui est racontée avec le rabbi, avec le rabbi Rachab. Une fois, il y a un chassid qui est venu le voir. Chassid catastrophique, sa situation. Pas de parnassa, pas de chidour pour les enfants, la galère à la maison, Shalom Bay, tout en galère, à l'école galère, tout galère. C'est vraiment la zut. D'accord. Alors, sa femme lui dit, écoute, va voir le rabbi, Rabbi Rachab, va lui demander brachot. Il va voir le rabbi Rachab, voilà, rabbi, je suis venu pour vous demander une bracha, etc. Il a tout sourire, etc. Il est sûr que ça y est, on va aller voir les brachot, et ça va être jackpot. Le rabbi lui dit, désolé, je peux rien faire pour toi. Oh. Comme ça, il lui dit. Il dit, bon, et il lui montre la porte. L'autre, il dit, mais Rabbi. Non, pas va-t'en. Bon, je peux rien faire pour toi. Tu vas rester, assis-toi. Alors lui, il était là. Bon, évidemment, il va pas déranger le Rabbi. Donc il sort du bureau du Rabbi. Il va au Beit HaMidrash. Et là, il commence à réfléchir. Il dit, mais attends, comment j'ai pu arriver là? Comment c'est possible? Il dit, quoi, même mon Rabbi ne peut plus m'aider. Plus personne ne peut m'aider. Il se met à pleurer. Qui le voit? Le frère du rabbi le voit. Tu vois un juif qui pleure, tu t'arrêtes. Bah, t'as mis de rage, je vois un juif en train de pleurer, à côté d'un livre, en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Et il lui dit, voilà ce qui m'arrive, ça fait quelques années, c'est la galère, j'en peux plus, etc. Je supporte. Et là, je suis venu enfin, je dis, bon, je vais en parler au rabbi. Je me fais, il m'a jeté, il m'a pas donné le bras, il m'a dit, je peux rien faire pour toi. Alors, le frère du rabbi va voir son frère, et il lui dit, je comprends pas. Il lui dit, un juif, il vient te demander une bracha, tu le jettes. Même si tu sens que tu ne peux pas régler cette situation, tu lui dis un mot d'encouragement, tu lui dis, t'inquiète pas, besoin de ta chaîne, ça s'arrangera un jour, tu diras bien. Comme ça, on dit, un juif, je peux rien faire pour toi. Il dit, bon, c'est bon, appelle-le. Il appelle, et là, il lui donne des brachot, et là, tout se règle. Alors, le rabbi Rachab, il dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, quand t'es venu, t'étais tellement sûr de toi, comment, il n'y a pas de problème, le rabbi va exécuter, que je ne pouvais pas t'aider. Quand je t'ai jeté, c'était pour ton bien, ça m'a fait de la peine de te jeter, mais quand je t'ai jeté, t'es arrivé à un point de rupture dans lequel tu as compris que il faut que tu comprennes qu'il y a un problème, et que ça va mal, et qu'il faut demander à Hachem, et c'est sérieux. À ce moment-là, quand t'as commencé à pleurer au Beit HaMidrash, c'est là que ton problème a été réglé. Après, moi, j'ai fait que faire descendre les brachot qui avaient été prévus pour toi. Et tant que t'avais pas cette rupture dans ton cœur, je comprends qu'il y a un problème, je peux pas te faire descendre. C'est exactement ce que dit Silas Mourazaken. Mourazaken te dit, tu peux travailler toute ta vie. Tu peux rigoler toute ta vie, pas de problème, continue à rigoler comme ça. Mais si tu veux que ça avance, quand tu vois que ça n'avance pas, à un moment, il faut comprendre qu'il y a un problème. Le but n'est pas de pleurer, le but est de comprendre qu'il y a un problème. Juste de dire à Dieu, Hachem, j'ai compris, il y a un problème. Le jour où tu as vraiment compris qu'il y a un problème, ce jour-là, le problème sera réglé. Tant que tu dis, bon, c'est pas grave, tout va bien, Bezrat Hachem, pas de problème, tu resteras toute ta vie avec ce problème, il ne bougera pas. Tu resteras avec des Bezrat Hachem toute ta vie. Tu veux que le problème se règle, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose, que c'est quelque chose de sérieux, et que c'est quelque chose qui est très profond en toi. Et c'est ce qu'il dit ici. Valze Neemar, pour ça il est écrit, Veyashov el Hashem virachameu. Pour ça il est écrit, je suis en bas de la page 312. Il est écrit, Veyashov el Hashem virachameu, il reviendra vers Hashem, et Hashem aura pitié de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est écrit comme ça. Il y a un passage qui dit, Veyashov el Hashem virachameu, vel Elohenu ki arbe l'isloach. Ça, c'est un pasouk qu'on dit dans, c'est un pasouk qui vient d'un prophète, qu'on dit, je crois, de Isaïe, qu'on dit dans les tfilot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, etc. Bon. On dit la chose suivante. On dit que, Veyashov el Hashem virachameu. On rappelle que, on va revenir vers Hashem et qu'Hashem aura pitié de nous. Pourquoi on dit ça? On te dit la chose suivante. Veyashov el Hashem. Lorsque tu reviens vers Hashem, tu comprends qu'il y a un problème. Là, virachameu, Akadosh Baruch Hu automatiquement aura pitié de toi et Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te ramènera. Il continue. Les horaires, rachamim rabim, d'éveiller une grande miséricorde. Al-Shem, Hashem, Ashochen, Itanu. C'est ça en vérité. En vérité, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'à un moment, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, tu dis, je ne demande pas la miséricorde pour moi. Je demande la miséricorde pour la parcelle de toi qui est en moi, qui est en galoute. Et je comprends qu'il y a un problème. je comprends que ça ne peut pas continuer comme ça. Que je ne peux pas continuer. Vous savez, il y a un psaume qu'on lit pendant les Aseret Yemetshuva, qui est le psaume qui, à mon avis, qui définit les Aseret Yemetshuva. Shira Ma'alot, Mima'amakim Keraticha Adonai. Qu'est-ce qu'il dit ce psaume? Il dit Shira Ma'alot, psaume 120, Mima'amakim, des profondeurs, Keraticha Hashem, je t'ai appelé Hashem. C'est de quoi des profondeurs? C'est-à-dire, tu peux appeler Hashem, tu vois là, je t'ai appelé. C'est pas Mima'amakim. Mima'amakim, c'est quand ça vient des profondeurs. Quand tu sens que c'est moi qui a parlé. Je suis pas en train de dire à Dieu que tu me dois quelque chose. Je suis pas en train de dire que j'ai raison ou que t'as raison. Je rentre même pas dedans. Mima'amakim keraticha Hashem. Des profondeurs, je t'appelle Hashem. Je te dis Hashem, Shima, Bekoli, Hashem, écoute ma voix, écoute-moi, je te parle, juste écoute-moi. Écoute ce que j'ai à dire. Après, tu fais ce que tu veux, mais écoute ce que j'ai à dire. Tiena oznecha kashuvot lekol tachanunai. Que tes oreilles soient attentives au son de mes supplications. Ça, c'est la traduction du psaume 120. Qu'on lit, alors Rosh Hashanah Kippour, qu'on lit pendant la Aseret Yemetshuvah. Pourquoi on a choisi ce psaume? Parce que ce psaume résume la Aseret Yemetshuvah, et il résume la Tshuva d'un juif. De quoi on parle ici? Il résume la Tshuva d'un juif, dans laquelle un juif, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, je sais pas qui a raison, qui a tort ici, je te demande juste de m'écouter. De m'écouter et de te laisser dire que ça va mal. Après, tu veux m'écouter, tu veux accepter, tu acceptes, tu veux pas accepter, tu veux pas accepter. C'est ton problème. Moi, Kadosh Baruch Hu, je te demande de m'écouter. Et ça, il dit, le horaire, Hamim Rabim, à la Shem, Hashem, Ashochen, Itanou, qui dit-il comme il est écrit, Ashochen, Itam, Betortum, Otam, que Kadosh Baruch Hu, il réside avec nous, avec eux, donc avec nous, Betortum, Otam, dans l'impureté. Avec ça, on va comprendre quelque chose de très important. Pourquoi ça s'est passé que par Yaakov? Il n'y a que Yaakov qui peut faire ça. Ni Abraham, ni Yitzhak. Abraham, Yitzhak, c'est conventionnel. C'est bon, t'as l'amour, la crainte, etc. On ne parle pas de ça. Là, on parle d'une situation où tout est mort, il n'y a plus rien. Il faut chercher autre chose. Il faut chercher le passe-partout ici. C'est Yaakov. Pourquoi Yaakov? C'est écrit comme ça. À propos de Yaakov, il est écrit. Vous savez, lorsque Yaakov, il a rencontré Rachel. Il est écrit, Vaishak Yaakov le Rachel. Yaakov a embrassé Rachel. Vaïssa et Kolo Vaïevk. Lorsque Yaakov a rencontré Rachel, Yaakov a embrassé Rachel, il éleva la voix et pleura. C'est quand même intéressant que la première rencontre qu'il y a eu entre Yaakov et Rachel, c'est une rencontre dans laquelle Yaakov a pleuré. D'ailleurs, il y a eu ça pour personne d'autre. Abraham et Sarah, ils n'ont pas pleuré quand ils se sont rencontrés. Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas pleuré. Ils se sont rencontrés, il y avait le chameau, etc. Ils se sont dit, bon, très bien, il n'y a pas de problème. Mais là, Yaakov, il rencontre Rachel, pourtant, il aime. On dit qu'il aime, il veut se marier avec elle, etc. On dit, avato. Et dès qu'il la rencontre, il pleure. Alors nous, quand on lit l'histoire, qu'est-ce qu'on s'imagine? On dit, bon, il pleure, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça, c'est quand on lit l'histoire, ça, c'est quand on lit la Bible comme un roman. Quand on lit le Chumash, et qu'on comprend que c'est des paroles Kodesh, on comprend que les actions de nos patriarches, c'est pas des actions qui sont, c'est pas un roman d'amour aussi. D'accord? Les patriarches sont Merkava. Tout leur corps, ils représentent Akadosh Baruch Hu. Leur corps est fidèle entièrement à Akadosh Baruch Hu. Alors regardez ce qu'il dit ici, c'est magnifique. Vezeu Shamar Akatuv. Et avec ça, on va comprendre ce que dit le verset. Page 313. Vezeu Shamar Akatuv. Vaishak Yaakov le Rachel. Yaakov embrassa Rachel. Vaisa et Kolo Vayevk. Il éleva la voix et pleura. Pourquoi? Qui Rachel i Knesset Israël. Il faut savoir que Rachel, dans le Sod, quand on dit Rachel, ça représente l'assemblée d'Israël. Rachel, ça représente l'assemblée d'Israël. Mais Kor, Kol Aneshamot. L'origine de toutes les Neshamot. Ça veut dire que Rachel, ça représente l'origine de toutes les âmes d'Israël. C'est pour ça que la seule qu'on appelle vraiment la mère, c'est Ima Rachel, la mère Rachel.
C'était pas Adam Rishon?
Rachel, non, je parle des Neshamot d'Israël. Les Neshamot d'Israël, Rachel, c'est la mère de toutes les Neshamot d'Israël. Maintenant, rappelez-vous, Rachel était stérile. Ça veut dire quoi qu'elle était stérile? Ça veut dire qu'elle arrive à un niveau dans lequel elle n'arrive plus à enfanter. C'est quoi enfanter? C'est quoi faire des bébés? C'est quoi avoir des bébés? Enfanter, ça veut dire arriver à faire des mitzvot. Mais Rachel était stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça représente le fait que Rachel, ça représente l'assemblée d'Israël, telle qu'elle est descendue en bas, telle qu'une âme d'Israël est descendue en bas, mais elle est stérile. Lorsque Yaakov rencontre Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Pourquoi il pleure? C'est pas des pleurs d'émotion. Parce qu'il a vu ça, Yaakov. Yaakov, il voit qu'en vérité, sa femme Rachel représente toute l'assemblée d'Israël. Et que toute l'assemblée d'Israël passe par une phase dans laquelle elle est stérile. Elle est stérile. D'accord? Et il peut rien faire pour ça. Il peut rien faire pour ça. Et en plus, le pire, c'est quoi? Le pire, c'est comme il est écrit là-bas dans Isaïe, c'est que Rachel, en hébreu, ça veut dire une brebis. Vous savez, une brebis, quand on est là, on est en train de la tondre. Et elle n'a pas envie qu'on la tondre, parce que ça lui fait mal. Elle n'a pas le choix. Est-ce qu'on lui donne le choix? On lui donne pas le choix. On lui dit, maintenant, laissez les te tondre, on va te tondre. De la même façon, là-bas, c'est expliqué dans le Zohar que la Neshama s'est comparée à Rachel. Rachel, ça veut dire la brebis. C'est-à-dire que nous, on fait descendre la Neshama, on la fait descendre, descendre. Elle arrive même plus à enfanter. Elle arrive plus à avoir des bébés. Elle arrive plus à faire des mitzvot. Elle arrive plus, elle est bloquée. Et en plus de ça, c'est comme la brebis. Ça veut dire qu'on est là, on la prend, on la tond, on fait ce qu'on veut avec elle, et elle peut rien faire. C'est une brebis. Une brebis, est-ce qu'une brebis est maître d'elle-même? Est-ce qu'elle fait que une brebis, elle est dirigée. Où tu la diriges, elle y va. Elle subit, Chazak. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que je sens la Neshama. Alors, Yaakov, pourquoi Yaakov pleure? Il pleure pas seulement parce qu'il a de la peine. Yaakov, il pleure parce que quand il pleure, il est en train d'éveiller la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh, j'ai très bien vu ce qui s'est passé ici. Yaakov, ou à mes horaires, Yaakov, Midato Elyona. Yaakov, dans son attribut supérieur, qui est l'attribut de la compassion, de Hatzilut. Ou à mes horaires, Achamim, Rabbi Malea. C'est lui qui est en train d'éveiller la miséricorde sur lui. Ça veut dire comme ça, c'est un très grand chidouche qu'on apprend ici. Nous, quand on est l'histoire dans la paracha Vayetse, Yaakov, il a rencontré Rachel, il a embrassé, il a pleuré. Oh, c'est imagine une histoire d'amour ici. Chas v'shalom. On te dit non. C'est une histoire qui est constante. Maintenant, à l'instant où je vous parle, Yaakov est en train de pleurer sur Rachel. Parce qu'il faut voir c'est qui Yaakov, c'est qui Rachel. Yaakov, c'est quoi? C'est la miséricorde du monde de Hatzilut. Ah, d'accord? Rachel, c'est qui? Rachel, c'est les Neshamot d'Israël, qui sont stériles. C'est pour ça qu'il y a une des fameuses Haftara autour du Shabéav. On dit Roni Akara, réjouis-toi celle qui est stérile. Après le Shabéav, on dit ça. Réjouis-toi celle qui est stérile. C'est qui est stérile? C'est nous qui sommes stériles. C'est stérile, ça marche pas, ça fonctionne pas. Réjouis-toi, ça veut dire que t'inquiète pas, ça va se guérir. Mais il faut comprendre qu'il y a des larmes ici. Yaakov il pleure. Pourquoi Yaakov il pleure? Yaakov il pleure parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème, il voit qu'il y a un problème. Ça veut dire en d'autres termes, avec ça on comprend comment en vérité. Tout le monde est en train de pleurer ici. Dieu, il pleure. Yaakov, il pleure. Les patriarches, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces Neshamot en bas? Combien de temps ils vont traîner en bas comme ça? Ils pleurent, tout le monde pleure. Le seul qui rigole, c'est nous. Nous, on est là en train de faire la fête. Donc, on te dit à un moment, tu dis, quand tu fais une Avera, à un moment, il faut te calmer un petit peu. Il faut comprendre que quand tu es en train de faire une Avera, tu es en train de tirer ta Neshama dans un monde qui n'est pas le sien. Et il faut avoir de la peine pour elle. Alors, le but ici, et c'est très important ce que je suis en train de dire, le but ici n'est pas d'éveiller un sentiment de culpabilité, parce que sinon je vous aurais fait ce cours avant Rosh Hashanah. C'est pas le but. Rentrez chez vous avec le sourire. Le but n'est pas de vous angoisser. Le but est de comprendre que l'Neshama va mal. Et quand tu comprends que l'Neshama va mal, automatiquement le dialogue que tu as avec Hashem est différent. C'est pas tu dis Hashem, écoute Hashem, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais, quand tu peux, hein, quand tu veux, pas de problème. C'est pas comme ça qu'on parle à Hashem. Tu dis écoute Hashem, ça va mal. Ça va mal. Now.
À ce point, ça va mal.
Bien sûr, ça va mal. La Neshama souffre.
La
Neshama souffre. Bien sûr qu'elle souffre, la Neshama. Quand tu vois d'où elle vient, comment elle était tellement kadosh, et comment elle la descend, c'est avec tous les efforts que je fais, même si je fais plein de mitzvot par jour. Voilà. Chaque fois que tu fais une avéra, tu la fais descendre. Mais attention, je dis pas ça par culpabilité, parce qu'on a été créé comme ça, et on s'en sort pas mal. C'est-à-dire, si ce qui vous inquiète, c'est ce que je suis un petit bien, vous êtes des petits biens, on est tous des petits biens, vous inquiétez pas. On est bien, y a pas de problème avec ça. La question n'est pas est-ce que je suis un petit bien, la question est comment va mon âme. Docteur, comment va mon âme?
Mais elle va pas si mal que ça, parce qu'elle reste encore attachée là-haut.
Oui, mais c'est le pire, ça.
Donc elle n'est pas complètement descendue.
Eh ben, elle est morte vivante.
Qu'est-ce qu'elle fait là-haut, alors?
Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix.
Pourquoi elle est là-haut?
Al-Korhar Atachai. Al-Korhar Atamet. Contre ton gré, tu vis. Contre ton gré, tu meurs.
Si elle est morte, elle ne doit pas ressentir ce que je fais en bas.
Quoi?
Si elle est morte.
Non, elle n'est pas morte. Justement, c'est ça le problème. C'est quoi le pire? À la limite, c'est mieux qu'elle meure. Quand elle meurt, on ne ressent plus rien. Le problème, c'est quand on fait souffrir quelqu'un, il est vivant. Devant lui, tu fais ça. Tu dis rien. Garde les yeux ouverts. Et tu fais devant lui ce qu'il n'aime pas. C'est exactement ce que je fais à Manishama. Maintenant, d'un autre côté, je suis né avec un corps qui me tire dans ça. C'est pas moi qui ai créé mon corps. Donc, mon but, c'est pas de m'en vouloir. Parce que j'essaie de faire ce que je peux. Et on s'en sort, grol. On s'en sort. Pro ou prou, on s'en sort. Bon, on n'est pas en train de s'en vouloir. Juste comprendre que le dialogue qu'on doit avoir avec Hachem, si tu arrives à éveiller l'amour et la crainte de Dieu sans passer par le chapitre 45, t'as réussi chapitre 41, 42, 40, 41, 42, 44, 45, t'as décollé, ferme le livre, rentre chez toi, shalom à l'Israël. Si tu sens que t'as pas vraiment changé, si tu sens que t'as pas vraiment changé, on te dit c'est là que ça se passe. Bon, il faut que ça bouge. Alors, combien on va traîner comme ça?
Une question. Pourquoi dans ce cas-là, Hachem, quand il a fabriqué toutes ces neshamot, d'accord, pourquoi leur a pas donné une clipa pour les protéger justement de tout ça?
Non, parce qu'encore une fois,
oui. Pourquoi? Parce que j'ai appris là récemment que par rapport à la paracha de la semaine dernière, que c'était donc l'incarnation du mal des prophètes, etc. Bon. Et Moshe Rabbeinu, il lui a toujours donné le dos.
Oui.
Et il voyait donc sa nuque. Quand il a essayé de le tuer à main brûlée, on dit que son cou s'est durci comme du marbre, etc. Il a tout essayé, rien ne passait.
Oui.
Et on dit que quand on enlève cette protection de la nuque, alors les forces du bien représentées par Moshe, elles s'expriment. Et tant qu'il y avait cette clipa, c'est là où il avait toute la
Palro.
Pourquoi il n'a pas fait la même chose?
Mais parce que je vous explique, parce que c'est trop facile sinon. Hachem, il veut qu'on travaille, vous inquiétez pas. Hachem, il est content de nous. Attendez. Chers amis, je dois terminer parce que le mariage. Hachem, il est content de nous. La question n'est pas est-ce qu'il est. Hachem, il est content de nous. La question n'est pas est-ce qu'il est content, est-ce qu'il n'est pas content. Comprends. La question n'est pas est-ce qu'il est content, est-ce qu'il n'est pas content. Il y a un gosse à l'hôpital ici. L'Anishama, elle n'est pas bien. La question n'est pas est-ce que Hachem, il est content de toi. Avec les moyens du bord, tu vas bien, t'as fait Kol HaKavod, on t'a préparé un grand tapis rouge en haut, 100 km tapis rouge. Il n'y a pas de problème avec ça. Si le tapis rouge vous voulez, il n'y a pas besoin de venir en cours de Tania. La question n'est pas le tapis rouge. La question est Hachem, va mal. Et c'est comme ça qu'il faut parler à Hachem. Mais attention, cet argument, vous le sortez vraiment quand, si dès le départ, dès qu'il y a un petit problème, tu dis, ça va mal. Bon, on dit, écoute, celui-là, c'est il crie le loup, et voilà. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une personne, il approche la fin de Tania, chapitre 51, 45. Il dit, baba, 45 chapitres, là. Ce qui n'a pas changé en 45 chapitres, il va pas changer.
Donc, je cherchais le bien de mon âme.
Mais de quoi le jour, hein?
Cherchais le bien de son âme.
Voilà. Alors, on te dit, il faut être persévérant, mais il faut comprendre qu'à un moment, des fois, il faut parler à Hachem avec la miséricorde.
Il n'y a pas la semaine prochaine, hein. Pourquoi? Tu vas découvrir.